Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le cinquième dimanche après la Pentecôte. Et l'Église nous demande, dans les deux livres liturgiques qu'utilise le prêtre tous les jours, savoir le bréviaire d'une part et d'autre part le missel d'autel, l'Église nous demande de méditer sur le pardon des injures. Et de façon plus générale, sur le commandement « tu ne tueras pas ». Elle donne d'abord comme exemple l'histoire de David. Depuis déjà un certain temps, dans le bréviaire, nous lisons une partie de l'histoire de David telle qu'on la rencontre dans le livre des rois, les livres des rois dans la Sainte Bible, sur l'Ancien Testament. Et le roi David est un magnifique exemple de ce pardon des offenses, parce qu'il avait provoqué involontairement la jalousie mortelle du roi Saul. Il avait tué Goliath, et lorsqu'il était revenu triomphant après sa victoire sur Goliath, et ses victoires nombreuses sur les Philistins, les foules chantaient au son des tambourins et des instruments de musique quand il rentrait dans la ville en disant « Saul a tué mille ennemis, mais David en a tué 10 000. » Et le roi Saul fut irrité, la jalousie le mordit au cœur. Et l'histoire sainte nous raconte que le roi Saul a perdu tout contrôle de lui-même à cause de cette jalousie, il a laissé cette jalousie rentrer dans son cœur et a cherché plusieurs fois à tuer David, deux fois. Il a dit qu'alors que David, entre autres, jouait de la harpe devant lui, il a essayé de tuer avec sa lance. Et à chaque fois, David a pu éviter le coup mortel. Et David a eu plusieurs fois l'occasion de se venger. Une fois, il s'était réfugié alors qu'il s'était enfui pour éviter d'être tué par le roi Saul. Et il s'était réfugié dans une caverne. Et Saul et quelques-uns de ses compagnons sont venus dans cette même caverne se reposer sans savoir que David était caché dans cette caverne. Et évidemment, David aurait pu profiter de l'occasion pour tuer son rival, Saul. Et même un de ses compagnons lui dit « C'est le roi, le Seigneur vous le livre, voici le moment de frapper de votre lance ». Mais David répondit, « Jamais je ne frapperai celui qui a reçu l'onction sainte. Il était loin du Seigneur. Il coupa seulement de son épée un gland du menton de Saul et sortit. Et au jour levant, il montra de loin à Saul le gland de son manteau. Saul pleura en disant, « Mon fils David, tu es meilleur que moi. » Et une deuxième fois, David surprit Saul en pleine nuit, en plein sommeil. Sa lance était fixée en terre à son chevet. Il se contenta de lui prendre sa lance et son gobelet d'argent qu'il avait à son côté. Et même lorsque finalement Saul mourut, David, apprenant la disparition de Saul, loin de s'en réjouir, pleura et déchira ses habits en signe de deuil. Après avoir même fait tuer la Amalécite qui s'attribuait le prétendu mérite d'avoir tué l'ennemi de Saul, il chanta ce cantique funèbre connu, « Montagne de Gelboé, que ni rosée ni pluie ne tombe sur vous, puisque c'est sur vous que sont tombés les héros d'Israël. » Et cette pratique de la vertu de charité n'est pas quelque chose de facile, surtout aujourd'hui. Je pense que les péchés contre la charité se sont répandus de façon exponentielle aujourd'hui, surtout à cause de la généralisation des moyens électroniques, notamment sur Internet. Beaucoup de nos fidèles ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils font. Je ne peux que conseiller à mes paroissiens, à ceux qui m'écoutent, de quitter les réseaux sociaux sur Internet. Dieu seul connaît les millions de péchés contre la justice et péchés contre la charité qui se commettent par l'intermédiaire des réseaux Internet, Facebook et compagnie. Tous ces réseaux sont entièrement contrôlés par les ennemis de l'Église. Et on est très tenté de raconter n'importe quoi sur Internet, surtout quand on est protégé par une certaine forme d'anonymat. Et on réalise absolument pas que lorsqu'on raconte quelque chose qu'on n'aurait pas dû raconter sur Internet, quelque chose d'imprudent, quelque chose d'injuste, quelque chose de faux, et bien dans les secondes qui suivent, Eh bien, cette nouvelle sur Internet a fait 5 fois le tour de la planète. Je ne sais pas si vous savez qu'un électron, ça court assez vite. Pour le rattraper, c'est pas facile, c'est même impossible. Et j'étais vraiment stupéfait de voir combien ces réseaux sociaux prennent d'importance dans l'âme de mes fidèles. Et je vois par exemple la stupéfaction de certaines personnes quand ils me demandent quelle est votre adresse Facebook. Je dis, mais j'en ai pas, je ne suis pas connecté à Internet par les réseaux sociaux, je n'en veux pas, je ne veux pas avoir de connexion Internet pour les réseaux sociaux. Les gens me regardent comme si je débarquais de la planète Mars. Ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Eh bien, je ne sais pas si Internet fait partie de la vie de tous les jours, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les péchés contre la charité, les péchés de médisance, les péchés de jugement téméraire, de calomnie, et tous ces péchés-là qui tournent aussi autour du mensonge, tous ces péchés ne doivent pas faire partie de la vie du catholique de tous les jours. Et ce qui me fend le cœur le plus, qui vraiment m'inquiète, c'est que beaucoup de nos fidèles qui sont habitués à raconter parfois n'importe quoi sur Internet, ne cherchent absolument pas à rattraper leurs erreurs, leurs omissions, pour ne pas dire leurs mensonges, leurs calomnies, leurs médisances. On entend même parfois des catholiques de tradition nous dire, eh bien écoutez, moi j'ai dit telle chose, mais je dis de façon anonyme, donc je cherche même pas à rattraper, mais vous êtes tenu de rattraper, même si vous l'avez fait de façon anonyme, même si vous avez calomnié telle personne de façon anonyme, parce que le péché contre la charité est toujours là. Alors le bon Dieu nous demande justement de pratiquer cette vertu de charité. Vous avez de bons conseils dans l'épître de Saint Pierre aujourd'hui. Soyez compatissants. Aimez-vous en frère, soyez miséricordieux, humble et doux. Ne rendez point le mal pour le mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez ceux qui vous maudissent, car c'est à cela que vous avez été appelés pour devenir les héritiers de la bénédiction. Préservez votre langue du mal, et que vos lèvres ne profèrent point le mensonge. Détournez-vous du mal et faites le bien. Et cherchez la plaie, la paix, attachez-vous à l'acquérir. Qui pourra vous nuire si vous vous appliquez à faire le bien? Certes, le bon sens existe. Attention, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est absolument évident, mais aujourd'hui, certaines choses évidentes ne le sont plus tellement dans l'esprit et dans l'âme de beaucoup de nos fidèles. Il est évident que la charité ne vous demande pas d'ouvrir la porte aux gens qui veulent détruire votre pays, d'ouvrir la porte de votre maison aux gens qui veulent violer vos enfants ou voler vos épouses et détruire toute votre vie. Un père de famille a le devoir de protéger ses enfants, un père de famille a le droit de travailler à protéger son pays. Nous ne pouvons pas accepter de voir entrer dans nos pays des gens qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est à détruire complètement le pays et par exemple à l'islamiser complètement. Certes, attention, on n'a pas le droit, pour obtenir un bien, de commettre une chose mauvaise. La fin ne justifie pas les moyens, mais il faut se protéger, c'est absolument évident. On ne peut que pleurer à chaudes larmes de voir la passivité de nos gouvernants qui laissent ces personnes entrer dans nos pays et détruire complètement le pays. Qu'est-ce qui est devenu la pauvre France, le pauvre pays de France, aujourd'hui une gigantesque poubelle, et c'est bien triste. Cependant, le principe même de la charité demeure. Attention aussi donc à ces péchés très fréquents, directement de mensonges. Vous savez que l'Église nous enseigne qu'il y a 3 sortes de mensonges. Un mensonge qui peut être un mensonge joyeux, plutôt une blague par exemple. Un mensonge officieux pour se couvrir. Et un mensonge pernicieux qui nuit au prochain. Le mensonge pernicieux est très souvent péché mortel dès qu'on atteint la matière grave. Mensonges joyeux en général ne sont pas des péchés mortels, parfois des péchés véniels, parfois pas de péché du tout. Quant aux mensonges officieux, souvent ils n'atteignent pas le péché mortel, mais les mensonges pernicieux détruisent la grâce sanctifiante dans l'âme, c'est quelque chose de grave. Alors il nous faut, mes bien chers frères, réfléchir à ces choses-là. Et on le voit également dans l'évangile du jour, c'est Saint Matthieu chapitre 5. Tu ne tueras pas, et celui qui tuera mérite d'être condamné en jugement. Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère méritera d'être condamné en jugement. Donc, c'est tu ne tueras pas au sens large. dont parle notre Seigneur Jésus-Christ ici. Ce n'est pas simplement tuer physiquement, corporellement quelqu'un. On peut tuer quelqu'un par les mauvaises choses qu'on dit contre lui, par les mauvais jugements qu'on dit contre lui, par sa colère contre lui. Celui qui dira à son frère « Raca, fou », méritera d'être condamné sur le conseil. Celui qui dira « fou » méritera d'être condamné au feu de la géhenne. Et rappelez-vous ce dernier conseil de notre Seigneur. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et après cela, tu reviendras présenter ton offrande. C'est valable pour tout le monde, bien cher frère, y compris pour les catholiques de tradition d'aujourd'hui, du 21e siècle. Et quand on rappelle ce commandement « tu ne tueras pas », il faut se rappeler que ce commandement englobe beaucoup de choses. C'est pas simplement ne pas tuer les corps, certes. J'espère que nos fidèles ne tuent pas le prochain, hein, qui ne sont jamais tombés dans ces horribles péchés de meurtre ou d'avortement. Mais il y a d'autres façons de tuer. Il est bien plus grave de tuer une âme que de tuer un corps. Alors peut-être que nous n'avons jamais été coupables de péchés de meurtre physique, mais nous avons été bien souvent, bien chers frères, coupables dans le passé de péchés par lesquels nous avons tué l'âme du prochain. Et c'est bien plus grave de tuer l'âme du prochain que de tuer le corps du prochain. Et de même que nous sommes tenus à une réparation, si nous, par colère, nous blessons quelqu'un, nous détruisons le matériel de quelqu'un, la propriété de quelqu'un, nous sommes tenus par justice à restituer. De la même façon, si nous tuons l'âme du prochain, par le mauvais exemple, par exemple, qu'on a donné à ce prochain, nous sommes tenus de la même façon à réparer. Et ce qui m'énerve, c'est que dans la plupart des cas que je connais, les réparations n'ont jamais été faites. On ne pense pas assez à réparer le scandale donné. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ sur le scandale. Il n'y va pas avec l'eau de la cuillère, comme on dit vulgairement. Malheur par qui le scandale arrive. Malheur pour celui qui a scandalisé un de ses petits. Il serait meilleur pour lui d'être jeté à la mer avec une grosse meule de moulin attachée à son cou que d'avoir commis un péché de scandale. Malheur par qui le scandale arrive. Scandale, c'est quoi? Le scandale, c'est le péché par lequel je détruis l'âme du prochain par le mauvais exemple que je lui donne. Soit de façon positive, soit de façon négative, dans les deux cas. Soit de façon positive, en donnant directement un mauvais conseil au voisin, au prochain. Soit de façon négative, en ne donnant pas le bon conseil que je suis tenu de donner. Si parce que je ne suis pas occupé de l'éducation de mes enfants, et que mon enfant a très mal tourné parce que je ne l'ai pas éduqué, je suis responsable de tous les péchés qu'il va commettre, au moins en partie. C'est ça le péché de scandale. Il est triste parfois de voir la faiblesse de certains parents qui se laissent parfois complètement déborder par leurs enfants. J'ai assisté plusieurs fois, c'était très pénible pour moi, à des jeunes adolescents qui s'adressaient à leur père de façon absolument épouvantable, le père disait rien. J'ai assisté à des désobéissances, quand j'étais invité parfois dans certaines familles, des désobéissances d'adolescents refusant d'obéir à leur père devant toute la famille, devant l'invité, le prêtre qui était là, et le père qui dit rien. Il se contente de pousser un grand soupir en disant « mon fils est très désobéissant ». Je pense que dans un cas comme ça, quand un papa ne remplit pas ses obligations de chef de famille dans lesquelles il doit aider ses enfants à aller au ciel, le père pêche gravement. Et le père qui laisse l'enfant injurier son père, désobéir ouvertement à son père et qui ne dit rien, est plus coupable que l'enfant. Parce que l'enfant est coupable d'un péché qui peut être un péché grave de désobéissance. Mais le père, par le fait qu'il ne fait rien, qu'il ne dit rien, qu'il laisse faire les choses, est coupable d'un péché bien plus grave. Parce qu'il détruit le principe même d'autorité. C'est bien plus grave de détruire un principe que d'accepter les conséquences d'un mauvais principe. Là, le père va contre directement le principe d'autorité. Alors, mes bien chers frères, je voudrais que mes paroissiens fassent un petit peu... qui m'écoutent sur Internet, fassent un petit peu leur examen de conscience dans ce domaine aussi. Est-ce que je suis responsable de la destruction de l'âme de certaines personnes? Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des personnes qui actuellement vivent en état de péché mortel à cause du mauvais exemple que j'ai donné à cette personne, même il y a 10, 15, 20 ou 30 ans? Avec la grâce du bon Dieu, moi je m'en suis tiré, j'ai pu me confesser, j'ai pu sortir de ces mauvais conseils que j'ai donnés. Pour personnellement, je ne vis plus comme ça, maintenant je vis droitement. Mais est-ce que j'ai rattrapé les mauvais conseils que j'ai donnés il y a 20 ans, il y a 30 ans? À cause de moi, il y a des personnes qui, à 30 ans, ont commis des péchés mortels, ont peut-être vécu dans le péché pendant très longtemps. Est-ce que j'ai aidé ces personnes à sortir de la situation pécamineuse dans laquelle ils étaient? Et souvent, on ne réalise pas du tout ces choses-là. Je donne toujours le même exemple. Je m'excuse de radoter un peu sur ce domaine, mais ce sont des exemples qu'il faut, à mon avis, sur lesquels il faut insister, surtout aujourd'hui, à cause du laisser-aller général, y compris dans les familles catholiques. Vous connaissez cet exemple, je redonne, pour ceux qui ont besoin peut-être de le reméditer. Imaginez une jeune fille de 17 ans, jolie de sa nature, qui va faire des courses avec ses amis le samedi après-midi dans un grand magasin ou dans une grande surface quelconque, dans une grande ville, habillée plus ou moins comme une prostituée. Ben, elle est responsable de tous les péchés qui vont être commis. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit: celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et saint Paul rajoute que les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Et que cette jeune fille ne vienne pas me dire, comme je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois: monsieur l'abbé, il n'y a plus de péché parce que tout le monde le fait. Et alors? Parce que tout le monde vit dans le péché, ça veut dire que le péché n'existe plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais pour revenir à mon histoire, ces jeunes filles qui vont habiller comme cela, habillées comme des prostituées, je m'excuse du terme, j'en vois pas d'autres à utiliser, comme des ribaudes, on disait autrefois, eh bien, sont responsables de tous les péchés qu'elles font commettre. Mais elle n'est pas la seule à être responsable. La mère de famille qui sait très bien que sa fille va habiller avec cette tenue et qui ne dit rien, elle est aussi responsable, et elle est plus responsable encore parce qu'elle a autorité sur la mère, sur l'enfant en tant que mère. Et le père de famille qui est chef de famille, qui sait très bien que sa fille de 17 ans sort habillée comme ça, qui ne dit rien, il a encore plus de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il est chef de famille. De la même façon que le péché originel ne serait pas rentré dans l'histoire du monde si Adam n'avait pas péché, et c'est son péché qui a entraîné le fait que le péché originel se soit répandu par génération dans tous les hommes, parce qu'il a péché en tant que chef de l'humanité, de la même façon, un père de famille est bien plus responsable des péchés de sa fille, parce que il a charge d'autorité. Alors non seulement la jeune fille en question qui fait du n'importe quoi, qui s'habille n'importe comment, qui fait pécher les gens autour d'elle par son comportement, par sa tenue, en général on s'en accuse pas beaucoup en confessionnal, la maman s'en accuse pratiquement jamais, le père encore moins. Et parfois quand j'insiste sur ces choses-là, quand je prêche ces exercices de Saint Ignace, quand je prépare, j'aide à préparer les confessions générales, quand j'insiste sur ces choses-là, je vois les parents, les pères surtout qui me regardent avec des yeux ronds, disant: monsieur l'abbé, j'ai jamais pensé à ça. Mais oui monsieur, vous êtes responsable parce que vous êtes chef de famille. Le chef de famille a d'abord des obligations. Le chef de famille, avant d'avoir des droits, a des devoirs. Est-ce que vous avez rempli vos devoirs? Attention. Et quand l'Église nous dit par notre Seigneur: va d'abord te réconcilier avec ton frère, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, ça couvre aussi la réparation des péchés de scandale indirect. Hein. Si j'ai quelque chose contre mon frère, parce que malheureusement mon frère, je l'ai entraîné dans le péché, je l'ai poussé au péché, je n'ai rien dit alors que j'aurais dû dire quelque chose pour le sortir du péché parce que j'étais son père ou sa mère, je n'ai rien fait, je suis responsable de la damnation de mon frère. Et donc je dois tout faire pour le sortir cet état de damnation pour pouvoir moi-même prétendre aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors mes bien chers frères, demandons à Notre-Dame de nous aider à comprendre ces choses-là et de verser en nos cœurs un ardent amour, comme le dit l'oraison du jour, afin que nous aimons, l'oraison du jour, au Dieu qui préparait à ceux qui vous aime des biens invisibles, versez en nos cœurs un ardent amour afin que vous aimant toutes choses et par-dessus toutes choses, nous puissions parvenir à ces promesses qui surpassent tout désir. Essayons de faire un examen de conscience et peut-être, mes bien chers frères, de préparer une bonne confession générale sur ces péchés contre la charité, tous ces péchés, ces mensonges, ces médisances, ces calomnies, ces jugements téméraires, ces scandales directs, ces scandales indirects que j'ai donnés dans le passé. Nous demandons surtout à la très sainte Vierge Marie de nous aider à retrouver la paix du bon Dieu. La paix du bon Dieu, elle passe 9 fois sur 10 par une bonne confession. Et tant que je n'ai pas retrouvé la paix du bon Dieu, je ne dois pas aller communier. Celui qui mange et boit le sang et le corps de son Seigneur sans discernement, boit et mange sa propre condamnation, nous dit Saint Paul, je crois que c'est la première épître aux Corinthiens. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, elle qui n'a jamais dit quoi que ce soit de méchant contre personne, et qui n'a jamais eu le moindre mauvais jugement, qui n'a jamais scandalisé personne, même de façon vénielle, elle qui n'a jamais laissé la moindre pensée de médisance, la moindre calomnie, même effleurer seulement son âme, son cœur immaculé, demandons-lui de nous aider à retrouver cette amitié avec le bon Dieu, amitié qu'elle n'a jamais perdue, mais que nous, malheureusement, plusieurs fois, nous avons eu le malheur de perdre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.